grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Nous sommes vendredi 14 novembre 2014. Nous recevons les élus de la nation pour débattre des sujets d'actualité de la semaine. Dans ce numéro, nous parlons du virus Ebola avec les nouveaux cas à Bamako, les consultations sur le document de synthèse d'Alger et l'opération de lutte contre la corruption. Nos invités sont Sédou Diawara de l'URD, Boubacar Sissoko du RPM et Souleymane Ouattara de l'APM qui interviendra depuis Sikasso par téléphone. Nous ne l'allons pas encore, mais nous espérons l'avoir. Au micro, Sira Batili, à la mise en homme, nous dirons et Gagni Kanti.
Studio Tamani.
Alors, honorable, bienvenue. L'actualité, je ne vous l'apprends pas, c'est le virus Ebola avec de nouveaux cas à Bamako. Après une relative accalmie, le virus est apparu à Bamako et concerne deux structures hospitalières. 4 cas signalés, maintenant dont 3 décès. Alors, honorable Diawara, faut-il s'en inquiéter?
Merci, Sira. Je pense que en face d'une telle pandémie, tout le monde doit s'inquiéter. Et tout d'abord, permettez-moi vraiment de souhaiter ou d'exprimer ma compassion aux différentes victimes de la pandémie Ebola. Et comme vous l'avez dit, depuis quelques temps, avec les cas avérés au niveau des structures sanitaires, c'est réellement la panique. Je crois que ce qu'il faut d'abord, c'est rassurer la population et que les responsables des structures sanitaires expliquent mieux aux populations quelles sont les dispositions prises. Je crois que dans les débats, nous rentrerons dans les détails.
D'accord. Alors, M. Boubacar Sissoko du RPM, parti présidentiel, les mesures de protection n'ont-elles pas fonctionné dans le cas du malade venant de la Guinée, selon vous?
Bon, moi, d'abord, permettez-moi, madame, de saluer tous les auditeurs de Radio Tamani, de saluer également votre initiative pour l'organisation de ce débat.
Merci.
Avant d'entrer, également, je joins ma voix à l'honorable Diawara pour présenter toutes les condoléances à ceux qui ont déjà perdu leur vie. Moi, je ne dirais pas que toutes les mesures de protection prises par le système de santé au Mali n'ont pas fonctionné. Mm-hmm. Je parle surtout d'insuffisance. D'insuffisance. J'inviterais vraiment le ministère et tous ceux qui sont impliqués dans cette situation à plus de renforcement, à plus de vigilance, à prendre la situation vraiment à bras de corps. Pour vraiment endiguer, minimiser vraiment la propagation dans la population.
D'accord. Honorable Diawara, qu'est-ce que vous pensez des mesures de protection mises en place par les autorités maliennes?
Bon, je crois que lors d'une de vos émissions, on a évoqué le sujet ici. Je disais à cette occasion que le gouvernement gagnerait à mieux expliquer les dispositifs. Donc, tout de suite, je lisais dans un journal que le premier magistrat de la République est affecté et qu'il aurait déclaré qu'une enquête est ouverte et des sanctions sont prévues à tous les niveaux.
C'est-à-dire le premier magistrat?
Le président de la République.
Ah, ok, d'accord.
Je lisais cela dans un journal. Mm-hmm. Mais quel que soit le système mis en place, l'assurance n'est pas à 100%. Mais dans les cas du Mali, certainement il y a eu des insuffisances. Mm-hmm. Pour preuve, c'est un cas qui n'est pas très certainement significatif. On était avec un médecin responsable d'un centre de santé dans une région, dans une zone très sensible, qui dit qu'il n'avait aucun matériel de protection. Ils ont reçu seulement 2 thermomètres. Mm-hmm. Le lieu d'isolement n'était pas prévu. Il y a 15 jours de cela. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui a été décrit comme mécanisme ne sont pas tous opérationnels. Ou s'ils le sont, c'est avec beaucoup d'insuffisance. Dans une situation comme ça, quand ça dure, quand vous mettez les postes de contrôle, il faut suivre. Ouais. Il doit être mobilisé, il doit être motivé, il doit avoir le maximum d'éléments. Donc, les différents cas qui apparaissent, Kaye, Bamako, des rumeurs disent Ségou, tout de suite, on parle Kidal, vrai ou faux,
oui.
C'est que ça crée une situation de panique au niveau de la population, laquelle doit être rassurée et qu'on indique des mesures efficaces.
Oui.
Vous êtes devant les centres de santé, tout le monde évoque la pénurie de matériel. Donc ça, c'est une réalité. Or, c'est un ensemble cohérent qui doit être mis en place.
Est-ce qu'il ne fallait pas revoir tout cela auparavant, avant que l'épidémie n'arrive même au Mali?
Ça, c'est ce qui est étonnant, c'est cela. Le gouvernement a toujours prôné que toutes les mesures sont prises. Mais la réalité nous prouve le contraire aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais est-ce que ce qui a été mis en place comme dispositif était évalué, était contrôlé? Si l'on n'aurait pas connu ces cas.
Oui. On se demande même, le président Ibeka qui demande de renforcer les mesures de contrôle au niveau des frontières. Est-ce qu'on peut croire en cela vu la défaillance de tout ce dispositif?
Bon, je crois que l'heure n'est pas à se jeter les responsabilités. Mais c'est que sûr, la population malienne mérite d'être
mais
protégée.
Mais il faut des mesures quelque part, c'est sérieux quand même.
C'est très sérieux, c'est pour dire que tout le monde est interpellé. Le président, le gouvernement, l'ensemble des Maliens. Donc, face à ces dangers, je crois qu'on doit impliquer tout le monde. Quelle serait la part de chaque individu dans les messages d'information, dans les dispositions de propriété qui doivent être observées et les mesures à observer au niveau de tous les points d'entrée ou les centres hospitaliers.
D'accord.
Je crois qu'on doit vraiment décrire à la population, à l'opinion publique, tout ce qui est mis en place comme dispositif matériel, humain et aussi suivi régulier de l'exécution.
Renforcer la sensibilisation.
Renforcer la sensibilisation.
Alors, honorable Boubacar Cissokho, vous êtes du RPM, le président qui déclare qu'il faut que les mesures de contrôle soient renforcées aux frontières. Les Maliens peuvent croire à cela?
Oui, je pense que les Maliens doivent vraiment croire à cela. D'abord, je vous informe que je viens d'un cercle qui est le plus proche, parmi les plus proches du centre de la Guinée, Kenyeba, la première région. Nous partageons plus de 300 km de frontière avec la Guinée. Moi, je reconnais que l'État a beaucoup fait. L'État a beaucoup fait. De la déclaration du premier cas en Guinée, des mesures de contrôle, de prévention ont été vraiment établies le long des frontières. Tout simplement, moi je prônerais un renforcement des capacités du personnel de santé, du personnel de contrôle. Tout ce que je déplore, c'est que les instruments de test, la centralisation des instruments de test. Parce que quand vous voyez le cycle de la maladie, de la contamination à la manifestation de la maladie, ça fait 21 jours. Donc aujourd'hui, un passager peut passer à la frontière, ne déclarant pas, les signes ne sont pas là. Donc une fois à l'intérieur, après 21 jours, ce sont les manifestations. Donc moi, je préférerais qu'on renforce le système de contrôle, le système de test, qu'on dote tous les postes de contrôle au niveau des frontières, des instruments d'analyse, des instruments de test pour faire les premiers tests au niveau des passages des frontières.
Ça voudrait dire que le dispositif est faible?
Le dispositif est faible et insuffisant et sous-équipé. Voilà, moi, il faut vraiment croire à la capacité de nos hommes, mais surtout à la volonté de nos hommes, à la volonté du gouvernement, vraiment de protéger sa population contre cette vilaine maladie.
D'accord. Je rappelle que Souleymane Ouattara de l'APM est sollicité à ce débat, mais nous essayons de le joindre depuis Sikasso. On n'y arrive pas à présent. J'espère que nous l'aurons au cours de ce débat. En attendant, honorable Diawara, le Mali est-il à mesure aujourd'hui de réduire ce nouveau foyer de propagation du virus Ebola?
Moi, je pense que le Mali est à mesure de jouer sa partition dans la lutte contre Ebola. Toute une question de stratégie. Il faut se devenir des objectifs, se donner des moyens. Je pense aujourd'hui la communauté internationale est mobilisée dans cette lutte contre Ebola. Qu'est-ce que le Mali a exprimé comme besoin auprès de nos partenaires? Cela est bon à savoir. Quels sont les dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement? Il faut informer davantage. Je prends quelques hôpitaux, en tout cas majeurs, Point G, Gabriel Touré. Quel est aujourd'hui les dispositifs de tri à l'entrée de ces centres hospitaliers? Face à une telle pandémie, on n'attend pas de connaître des cas avant de mettre des mesures de contrôle des tri. En tant que, je parle en tant que profane, hein. Est-ce que de telles mesures existent aujourd'hui au sein des centres hospitaliers? Est-ce que les centres de référence dans les cercles ont tous les équipements de protection nécessaires? Est-ce que des gens sont formés à faire des prélèvements? Est-ce qu'on a identifié des centres d'isolement? S'il y a centre d'isolement, qui prend en charge? J'ai l'avis de poser cette question à un médecin. Bon, il n'a pas su me répondre. Il dit que c'est des partenaires du Mali qui vont le gérer. Cela n'appartient pas aux partenaires. Ce sont les structures nationales qui doivent définir déjà, en confinant des gens sur place, qu'est-ce que le gouvernement fait. Les autres ne peuvent qu'apporter un appui. On doit connaître ces points, mettre en place les mesures quand même pour les gérer. On n'attend pas d'être en face des cas pour chercher ou isoler les malades. C'est ça aussi la réalité aujourd'hui au Mali, dans beaucoup de cercles.
D'accord. Bouakar Sissoko du RPM, vous pensez que le Mali est en mesure de réduire ce foyer de propagation du virus Ebola?
D'abord, pour gagner une bataille, il faut avoir confiance en soi-même. Je pense qu'il faut avoir confiance en nos hommes de santé. Moi, je suis sûr que nous sommes en mesure de faire face à cette situation en tirant toutes les leçons nécessaires sur les cas précédents des pays qui nous entourent. L'expérience de la Guinée, l'expérience de la Sierra Leone et l'expérience des autres pays qui ont été victimes de cette situation. Je rejoins vraiment l'honorable pour dire qu'on ne laisse pas la vie de la nation devant une telle épidémie dans le financement extérieur. Il faut vraiment dégager une ligne budgétaire conséquente et le mettre à la disposition de cette situation pour vraiment renforcer, comme je dis, la capacité de nos hommes, que ce soit technique, mais surtout le matériel. Il faut vraiment l'équipement nécessaire et la formation nécessaire du personnel pour faire face à cette situation. Si nous avons confiance en nous-mêmes, si nous ne sommes pas paniqués, parce que quand on a peur, on perd 50% de ses capacités. Donc, une bonne information, une bonne éducation, une bonne sensibilisation, une bonne organisation, nous permettra vraiment de faire face à cette situation.
On parle aussi de mesures administratives contre les défaillances au niveau des structures hospitalières. Est-ce qu'elles sont nécessaires selon vous?
Pour le moment, je pense que ce n'est ni le moment de se rejeter les responsabilités, ce n'est ni le moment de faire des sanctions. C'est le moment de la réorganisation. C'est un dispositif, ce sont des situations nouvelles qui se présentent et ce n'était pas prévu. Ce n'était vraiment pas prévu. Donc, si les dispositifs actuels ne sont pas conformes, ne répondent pas aux besoins actuels, il faut proposer, il faut leur demander une meilleure organisation au lieu des sanctions qui suivent. Parce qu'en amenant des sanctions, ça va amener d'autres désorganisations qui nous seront défavorables.
Alors, Monsieur Honorable Diawara, qu'est-ce que vous pensez des mesures administratives contre les structures hospitalières? Est-ce qu'il faut épingler des gens maintenant?
Bon, je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin. Qu'est-ce que le gouvernement peut nous décrire? Quelles sont les mesures préventives adoptées au niveau de ces structures?
C'est
en fonction de cela. Le schéma de fonctionnement, les équipements, les moyens d'analyse. Est-ce qu'on a formé les gens à faire face à cette urgence du moment? Si cela a été fait, est-ce qu'il y a eu un contrôle régulier de la chaîne préventive qui est en place? On ne peut pas ne pas donner assez de matériel et se lever du matin qu'on va sanctionner des gens. Si on donne les moyens, on les forme et on contrôle régulièrement le respect des mesures préventives indiquées, bon, les défaillants, forcément, il faut les sanctionner. Toute sanction n'est pas de les mettre en prison. Mais en tout cas, ils ne doivent pas être à ce niveau de responsabilité.
D'accord. Je crois qu'à ce niveau aussi, la collaboration entre les structures hospitalières de l'État et les cliniques privées sont nécessaires.
Non. Cela, c'est pas de commentaire. C'est pourquoi j'ai dit que les dispositifs mis en place par le gouvernement doivent concerner l'ensemble des acteurs de la santé. Les entités publiques, les entités privées, tout le monde sait combien de cliniques privées il y en a au Mali. Est-ce qu'ils ont été tous impliqués dans cette lutte contre l'Ebola?
Ils doivent être impliqués parce qu'ils reçoivent les malades.
C'est un passage obligatoire. C'est une collaboration indispensable. Ce n'est pas le moment de s'accuser qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais est-ce que les dispositifs mis en place au départ a prouvé sa pertinence.
D'accord, on va faire réagir Boakar Sissoko du RPM sur cette question juste après quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le Grand Dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID. Oui, et oui, le Grand Dialogue du Parlement sur l'actualité, trois invités, trois sujets, mais on n'arrive pas toujours à avoir le troisième invité. Ebola, les consultations sur le document de synthèse d'Alger et la lutte contre la corruption. Nous sommes avec Seydou Diawara de l'URD et Boakar Sissoko du RPM. Deuxième thème donc, les consultations sur le document de synthèse des pourparlers d'Alger. Mais en attendant, je voudrais faire réagir Monsieur Boakar Sissoko du RPM. On voit que le dispositif a des failles. Est-ce qu'il ne faudrait pas une collaboration entre les cliniques privées et les structures hospitalières de l'État?
Madame, effectivement, ça c'est vraiment une grande nécessité. Mais surtout, moi je voudrais lancer un appel. Que chacun ait conscience de ses responsabilités dans cette situation. Qu'on soit du privé, qu'on soit de l'État, que tout le monde reconnaisse, que tout le monde soit conscient. Que nous avons un rôle à jouer et nous avons une responsabilité à jouer sur le rôle de la complémentarité. Ouais. Et surtout, vraiment avoir conscience, ne pas cacher des situations. Tant qu'on cache pour vraiment des raisons X ou Y, ce sont des conséquences désastreuses qui vont s'en suivre comme nous sommes en train de le faire. Donc j'en appelle à la responsabilité, à la conscience vraiment professionnelle de nos agents de santé, publics ou privés.
D'accord. Le deuxième thème que nous abordons, les consultations sur le document de synthèse des pourparlers d'Alger. Le gouvernement se mobilise donc pour préparer le troisième round des accords d'Alger. Le gouvernement prend ainsi le pouls de l'opinion sur le document de synthèse. Alors, honorable Seydou Diawara de l'URD, cette opération est-elle une nécessité pour le gouvernement de trouver une légitimité auprès de la population pour peser dans les négociations?
Je pense que cette démarche est plus que nécessaire et à mon analyse, elle est même tardive. Nous sommes au troisième rang
par
rapport à Alger aux négociations, en tout cas un pourparler inclusif des Maliens. Nous, pour notre part, nous avons décrié ce manque en tout cas, d'implication de toutes les composantes sociales. S'il y a déjà un document qui sort, qui a été soumis aux différentes parties par les médiateurs, il est important quand même que ce document soit porté à la connaissance de l'ensemble des couches du Mali. Prendre leur appréciation, leur point de vue. Et certainement, le gouvernement doit pouvoir dire aussi, lui, quelles sont ses propositions par rapport à ces mesures. Ce document, je ne l'ai vu qu'aujourd'hui. Les pourparlers sont terminés il y a 2 semaines ou 3 semaines. En principe, toutes les composantes devaient avoir ces documents. Bien qu'il existe sur les réseaux
Pourtant,
sociaux.
Pourtant, on aurait appris qu'il y a des députés qui ont été délégués pour cela. C'est vrai ou ce n'est pas vrai?
Bon, il y a des délégués. Certains délégués étaient à Alger. Mais dans quel cadre? Il faut se les poser. Je crois qu'ils sont partis dans l'équipe de facilitateurs Modibo Keïta. Maintenant, quel était leur niveau d'implication dans les
Je parle des consultations au niveau du Mali ici par rapport au document de synthèse. On aurait appris qu'il y a des députés qui ont été déployés au niveau des régions pour recenser les préoccupations des uns et des autres.
En tout cas, si cela a été fait, ça n'a pas été décidé au niveau de l'Assemblée, pas à ma connaissance. Je ne pense pas qu'il y ait une mesure qui met en mission des députés pour parler du document de synthèse. C'est aujourd'hui que moi j'ai vu le document de synthèse. Je l'ai demandé hier. En tout cas, à qui de droit, on m'a affirmé que le document n'était pas disponible à l'Assemblée.
Le cas pour tous les députés.
Je l'ai vu aujourd'hui. Je le voici. Donc, dire que les députés ont été envoyés dans les régions pour expliquer ce document, même si c'est le cas, je n'en ai pas connaissance.
Vous pensez qu'il y a un retard qui a été déjà accusé dans ce système?
Bon, il n'y a pas retard, mais quand il y a silence, déjà, il y a suspicion, chacun interprète à sa façon. Des gens ont eu accès à un document à travers les réseaux sociaux. En lisant, chacun peut avoir des interrogations. Sans une réaction, sans une explication du gouvernement, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, il y a un mémorandum où il est spécifié que le document n'est ni négocié, ni discuté. Mais ce qui est sûr, il y a des points qui ont été soumis par le médiateur. Je suppose que ça prend en compte des propositions des groupes armés, des propositions de la partie gouvernementale. À lire quelques pages, souvent, on s'interroge.
Alors, honorable Sissoko, l'opération est-elle une nécessité pour le gouvernement de trouver une légitimité auprès des populations pour être plus présent dans les négociations à Alger?
Merci, madame. Par rapport à ce sujet, comme l'honorable vient de le dire, pour respect de l'auditoire, pour tout le crédit que j'apporte vraiment à votre studio, à la phase actuelle, je pense que le Parlement est mal placé pour discuter de cette situation, parce que je viens de la conférence des présidents. Nous devons écouter le gouvernement de lundi sur cette situation. Donc nous n'avons pas aujourd'hui, à l'heure là où je vous parle, toutes les informations nécessaires pour vraiment répondre à satisfaction à la question, à vos préoccupations.
Mais vous pensez qu'il y a un retard qui est accusé quelque part quand même?
Bon, c'est
que les négociations doivent redémarrer bientôt.
Bon, vous savez, c'est un sujet très délicat. Mm-hmm. C'est un sujet tellement délicat qu'il faut faire avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup d'attention pour éviter les erreurs. Mm-hmm. Pour éviter les erreurs parce que nous n'avons pas et nous ne souhaitons même pas cette situation tout le temps. Mm-hmm. Donc nous supposons que cette fois-ci, c'est une résolution définitive de la situation du Nord. Mmh. Donc, parler de retard, moi, je ne vois pas le problème comme ça, pourvu que ce soit bien fait.
Mais cette consultation n'a pas déjà démontré ses limites?
Bon, la consultation n'a pas démontré ses limites parce qu'elle n'est même pas finie. Mmh. La consultation n'est même pas finie. Mmh. C'est un processus qui est engagé. Ils sont en train d'informer le peuple jusqu'à la base. Le Parlement doit écouter le gouvernement en principe le lundi. Donc je pense que c'est l'enrichissement du document proposé par la commission de médiation. Nous sommes à cette étape. Il serait vraiment un peu prématuré de juger la qualité
Mais
du document.
Mais déjà, quelle est l'appréciation que vous faites de cette démarche? Le fait que le gouvernement initie d'aller vers le peuple et de leur montrer ce document de synthèse, quelle appréciation vous en faites en tant qu'élu de la nation?
Bon, moi, je vous dis vraiment, je ne voudrais vraiment pas sortir. Mm-hmm. Je suis député.
C'est un de nos thèmes, mais il faut que vous en parlez.
Oui, je voulais vraiment bien.
On vous a invité pour ça.
Oui, on m'a vraiment invité pour ça, mais je ne vais pas faire d'autres sujets et je ne vais pas vraiment pas vous relater de l'inutile.
Alors, d'accord. honorable Diawara, cette consultation n'a pas montré ses limites déjà que vous n'étiez même pas informé de cela.
Bon, à ma connaissance, même s'il y a eu consultation, c'est à un niveau très restreint. Voilà. Donc, parler qu'elle a montré ses limites, bon, ce ne serait pas juste. Mm-hmm. Si juste. J'ai vu ce qui est annoncé déjà, ça commençait aujourd'hui.
Mm-hmm. En tout cas,
on a donné un chronogramme peut-être sur une semaine ou 10 jours. Mm-hmm. Moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas le programme. Donc, je ne peux pas dire que la consultation a montré ses limites. Mais elle est nécessaire. Mm-hmm. Elle exige l'implication de toutes les composantes dans ce qui va être le Mali de demain. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, c'est la phase, l'étape avant d'aller à un document final qui va encore être expliqué aux gens. Mm-hmm. Et la phase d'explication va même continuer au-delà de la signature d'un document définitif. Mm-hmm. Parce que tout le monde ne peut pas être au même niveau d'information, de possession, de toutes les dispositions.
Est-ce que déjà ce sont toutes les franges de la société qui sont concernées ou bien c'est l'élite qui est choisie?
J'avoue, madame, je ne peux pas répondre à ça. Mm-hmm. C'est par un avis lu à la télé hier que nous avons donné un chronogramme au niveau des différentes régions.
Mm-hmm. Mais vous pensez qu'il faudrait impliquer toutes les franges de la société?
Oui, c'est nécessaire. Mm-hmm. Quelle que soit la frange de la société aujourd'hui, quand même, il y a un organisme fait tiers par rapport à chaque composant de la société. Mm-hmm. On ne peut pas dire appeler chaque Malien ou chaque Malienne à se prononcer sur un document, mais quand même, il y a des organisations, il y a des institutions quand même qui travaillent au nom de l'ensemble des populations du Mali. Mm-hmm. Donc, prendre l'avis de ces différentes institutions politiques, sociales, sociétés civiles ou institutionnelles, c'est nécessaire quand même.
Bien sûr. Alors, honorable Sissoko, pensez-vous que le document de la médiation est en état susceptible de faire la bonne synthèse des attentes des uns et des autres?
Madame, je pense que nous sommes sur un processus. Mm-hmm. L'importance de communiquer autour de ce document et de choisir les canaux. Les canaux, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Je suppose même que nous n'avons même pas de document final d'abord. Nous sommes dans un processus d'enrichissement. Mm-hmm. D'enrichissement du document. Et pour ce processus, moi je voudrais vraiment qu'on laisse le processus aller au bout. Mm-hmm. Et maintenant juger de la qualité du produit que nous aurons au bout du travail.
Alors, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, par rapport à l'avis des uns et des autres sur ce document, en tant que parti du pouvoir?
Bon, je vous dis, tant qu'il n'y a pas de document final, je ne pourrais vraiment pas juger. Nous sommes dans un processus, je suis procédurier, je voudrais vraiment qu'on laisse le gouvernement aller. Ayons confiance. Nous avons choisi des hommes et des femmes sur un capital de confiance, qui sont à hauteur, n'est-ce pas, de nous mener vraiment à bon port. Laissons leur temps.
Mais qu'est-ce qu'il faut au gouvernement pour aller plus fort dans ces négociations pour le troisième round?
Bon, pour le troisième round, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. On est en train d'écouter le peuple jusqu'en profondeur. On est en train d'écouter le peuple jusqu'au Parlement. Nous sommes en train d'écouter les partenaires jusque dans les représentations diplomatiques, dans les autres institutions, je pense. En tout cas, moi, j'ai confiance. Je voudrais qu'on laisse le processus se terminer.
Alors, Honorable Diawara, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour le gouvernement pour être plus fort dans les négociations d'Alger pour le troisième tour?
Bon, je pense que pour que le gouvernement soit plus fort, le gouvernement doit savoir quelles sont les attentes des populations maliennes. Certainement, chacun à un moment donné s'est exprimé. On arrive à mettre les différentes propositions en place. Et par rapport à ce document qui va servir de trame aux dernières négociations, le gouvernement doit informer chaque composant de toutes les dispositions énoncées déjà dans le document. Discuter ou pas, c'est ce qui ressort d'un document du médiateur. Porter la connaissance des couches et le gouvernement, même s'il y a souvent une attitude de retenue par rapport à la disposition qui ne doit pas être mise sur la table, mais le gouvernement doit rassurer les uns et les autres par rapport à son appréciation que le gouvernement fait lui-même. Donc un silence autour de cette question ne peut pas être payant. Je crois que c'est important que le gouvernement implique l'ensemble des couches là-dedans et c'est à ce seul prix qu'il n'y aura pas de surprise.
Honorable Sissoko, la communication s'impose. Hein. Il faut que toutes les franges de la société soient impliquées, n'est-ce pas?
Effectivement. Moi, je salue même l'initiative du gouvernement parce que la communication, aller à profondeur, c'est sur l'initiative du gouvernement. Rencontrer les partenaires diplomatiques, c'est sur l'initiative du gouvernement. Rencontrer les députés, les élus, les représentants de la nation, c'est sur l'initiative du gouvernement. Donc ici, je dénote vraiment la bonne volonté du gouvernement de communiquer et de communiquer avec tout le monde. Donc je ne partage pas surtout qu'il y ait silence autour de ce document. On ne peut même pas faire silence autour de ce document-là.
Est-ce qu'il ne faudrait pas descendre dans les plus confins du Mali pour, avec ce document, montrer aux Maliens ce qu'il en est?
Si, c'est ce qui est en train de se faire. J'ai dit, il faut qu'il y ait communication. Et il faut choisir les canaux de communication. Les rencontres qui sont en train de se faire au niveau régional regroupent toutes les représentations de toutes les sensibilités, de toutes les couches de la nation. Donc, il y aura obligatoirement restitution de l'information à la base et tout le monde sera informé. Et l'opinion de tout le monde arrivera au niveau du gouvernement pour vraiment enrichissement du document.
Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter encore?
Bon, je ne comprends pas bien qu'est-ce que vous voulez.
Ce que je veux plus de propositions par rapport au gouvernement pour qu'on soit plus fort dans ces négociations à Alger quand même.
Bon, justement, c'est pourquoi je vous dis, le document, Laurent vous l'a dit tout de suite, ceux qu'on lit sur les réseaux sociaux, nous, en tant que parlementaires représentants de la nation, nous ne pouvons pas le prendre comme de l'argent comptant. Ce que nous pouvons comprendre, nous pouvons prendre et diffuser, et relayer à la base, c'est la présentation que le gouvernement va nous faire le lundi,
D'accord.
Tant que cela n'est pas fait, bon, vraiment, nous sommes...
D'accord, on va attendre le lundi voilà. Et on va observer quelques secondes de pause.
Merci.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le Grand Dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID. Vous écoutez Studio Tamani depuis la maison de la presse de Bamako. Aujourd'hui, c'est l'espace réservé aux députés pour décrypter l'actualité de la semaine. Dernier thème de ce débat, la lutte contre la corruption. Depuis janvier, le président Ibeka a décrété 2014 l'année de lutte contre la corruption. Le week-end, on a beaucoup entendu parler de cette opération de lutte contre la corruption, détournement des véhicules de l'État. Alors, honorable Diawara, quelle communication faut-il comprendre dans cette opération lancée par l'État?
Bien, madame, comme vous l'avez dit, je crois que le gouvernement a déclaré 2014 année de lutte contre la corruption. Nous sommes bientôt à 2 mois. Est-ce que le gouvernement peut dire aux Maliens qu'est-ce que nous avons pris comme mesure de lutte? Je ne sais pas à quel dossier vous faites référence ces derniers jours-là.
Détournement de véhicules. Je crois on que va venir à la surfacturation aussi.
Les questions, la gestion des véhicules en tant que bien de l'État, le président nouvellement élu a pris un engagement par rapport à l'utilisation rationnelle des véhicules de l'État. C'était depuis 2013. Est-ce qu'on peut rendre compte aujourd'hui au peuple qu'est-ce qui a été fait comme disposition? Ça ne doit pas être une mesure nouvelle. Si on s'engage à aller à une utilisation judicieuse des biens roulants de l'État, cela suppose qu'on ait fait l'inventaire de l'ensemble des biens, qu'on suit, qu'on a fait un planning d'utilisation au niveau de chaque entité qui possède ces véhicules. Est-ce qu'il y a eu ces contrôles? Quels sont les résultats? Je crois que l'opinion publique gagnerait à être mieux informée. Ça a été une annonce phare du président de la République dès sa prestation de service. Aujourd'hui, fin 2014, qu'est-ce que le gouvernement doit dire? Voici l'État, le parc véhicule de l'État. Voici comment il est géré. Voici ce que nous avons constaté. Il ne s'agit pas peut-être de quelques véhicules qui ont été soustraits. Non. On exprime une volonté. Après une année, je crois que c'est 12 mois, c'est suffisant pour faire un bilan de la lutte contre la mauvaise utilisation des véhicules de l'État.
Alors, je vais demander à Honorable Sissou, est-ce que ce bilan est fait aujourd'hui?
Bon, d'abord, madame, moi, je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que la volonté ferme du président de la République de faire l'année 2014 une année de lutte contre la corruption n'est vraiment pas un slogan vain. Ce n'est pas...
Quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises
mesures,
à ce sujet?
Les mesures concrètes, toute la nation entière est témoin. L'Assemblée est témoin. Nous avons voté, nous avons adopté une loi sur l'enrichissement illicite, la répression sur l'enrichissement illicite et la corruption. Jamais au Mali de telles lois
n'avaient été adoptées.
Ça a été adopté lors de la première session. Donc on a adopté, il n'y avait pas de loi qui réprimait l'enrichissement illicite et la corruption au Mali. Donc avec Ibeka, nous avons adopté cette loi. Deuxième chose, pour encore réaffirmer la volonté.
Est-ce que l'adoption d'une loi pour lutter contre la corruption est une mesure
C'est une mesure dissuasive. C'est une mesure dissuasive. Désormais, quand on sait que quand on s'enrichit illicitement et quand on est pris pour des cas de corruption, il y a désormais le législateur, le magistrat malien est suffisamment outillé pour prendre, pour faire des répressions, pour réprimer ces actions-là. Je pense que c'est une mesure dissuasive. Et c'est une bonne volonté politique. Ensuite, la deuxième volonté politique du président de la République, la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est pour réprimer les responsables.
Elle fonctionne?
La Haute Cour fonctionne. Donc moi-même, je suis membre. Nous avons prêté serment, les locaux sont trouvés, les gens sont installés et des dossiers sont en instance d'être transmis devant cette haute cour de justice. Nous venons de créer hier une commission ad hoc sur le cas d'Abid Sagara. Il y a une commission d'accusation qui a été mise en place pour le cas Amadou Toumani Touré. ancien président de la République. Donc je pense que ici, c'est une volonté ferme pour le gouvernement et pour le président de la République de lutter de manière efficace, contre l'enrichissement illicite et la corruption. Donc nous ne sommes pas en fin d'année. Pour le moment, un bilan, faire un bilan, je suppose...
Mais déjà, vous avez songé à un bilan. Parce qu'on n'est pas loin de 2015. Hein?
Bon, d'abord, je ne suis pas dans l'instance qui doit faire le bilan. Mais je suis
mais
là.
Mais vous êtes du RPM quand même. Vous pouvez nous entretenir sur
ça. Non, ce n'est pas le RPM qui va faire le bilan. C'est le gouvernement qui va faire le bilan, qui
est
composé.
Le RPM est au pouvoir.
Non, le RPM est au pouvoir avec d'autres. Le RPM est au pouvoir, mais le RPM gère le pouvoir avec d'autres partis.
Il est majoritaire.
Donc, à l'ère du bilan, je pense que cette situation va bien apparaître. Mais il y a la volonté que je viens de vous rappeler. Une loi est déjà prise pour réprimer ceux qui veulent s'enrichir illicitement. Et la volonté est donnée que nul n'est au-dessus de la loi, parce que la Haute Cour de justice est susceptible de juger et le ministre et le président de la République.
D'accord. Honorable Seydou Diawara, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes de l'URD, de l'opposition?
Bien, vraiment, je voudrais rectifier l'honorable Sissoko. La loi votée n'est pas la seule loi qui lutte contre l'enrichissement illicite. Les codes pénals, il y a plus de 6 lois qui, chacune à sa façon, répriment la délinquance financière. Il faut que cela soit clair. La dernière loi votée n'était que sous le principe de déclaration de biens, juger les gens selon leur acquis du moment, ce qui était la nouveauté qui a été introduite dans les dispositifs, dans l'arsenal juridique. C'est donc depuis que le Mali est indépendant. Le code pénal a toujours réprimé la délinquance financière. Certainement, les moyens utilisés diffèrent. Les actions menées au niveau des instances d'investigation, de jugement, ont certainement eu leurs limites. Je crois que c'est important de clarifier. Donc, si on dit qu'on va faire l'année...
S'il vous plaît, madame, je voulais vraiment juste réagir par rapport à cette intervention.
Vous voulez laisser finir, après vous allez réagir.
Bon, comme je ne suis vraiment pas, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas légitime.
Je vais vous le rappeler. Ah, c'est bien dit, hein? Vous êtes malinqué. Hein? Ils ne sont pas très malins. Ouais.
Non, non, je voulais dire que c'est une volonté politique affichée. Je crois que si chacun suit l'activité nationale, avec le ministre de la Justice, qui est responsable des instances d'instruction et de jugement, qui se prononce vite sur le dossier. Il s'agit de savoir maintenant. Il y a beaucoup de rapports, des structures de contrôle qui sont déposés au niveau du président de la République, qui sont au niveau du gouvernement, qui sont connus de certains. Le pouvoir en place a hérité de beaucoup de rapports. Et des rapports ont été déposés sous sa gestion. Ouais. Quel est aujourd'hui l'état d'application ou de contrôle qui ont été effectués et quelles sont l'ensemble des mesures prises? Certainement, c'est pas, les choses ne sont pas faciles telles qu'on l'a, mais tant quand on les déclare, on doit pouvoir le montrer. J'ai même, à un moment donné, quand on avait annoncé un grand jugement en 2015, maintenant, il faudrait qu'on nous dise quel est ce grand jugement qu'on veut faire. En tout cas, la lutte contre la délinquance financière n'est pas une chose nouvelle au Mali, mais elle a toujours montré ses limites.
D'accord. Alors, on va vous faire réagir maintenant, M. Sissoko. J'espère que vous avez retenu.
Non, oui, oui, madame. Vraiment, okay. D'abord, je voulais rappeler qu'on se rappelle qu'avec Modibo Keïta, le Malien avait quand même honte de voler. Avec Moussa Traoré, le Malien avait peur de voler.
Et maintenant?
Mais, non, avant maintenant, avant ce régime, les Maliens n'avaient ni peur ni honte de voler. Donc c'est devenu une endémie. Je ne sais pas comment vous qualifiez ça. Mais je voulais réagir par rapport à l'intervention de l'honorable Diawara. C'est vrai, dans le code pénal, il y a des parties, des lois peut-être, qui luttaient contre cette situation. Mais jamais l'intitulé d'une loi n'a été aussi précise. La lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Ce n'est pas dit maintenant. L'intitulé est très clair. C'est pour mieux outiller, comme je dis, le magistrat malien, que désormais, et on a même défini qu'est-ce que c'est que l'enrichissement illicite et qu'est-ce que c'est que la corruption. Ce n'est pas une déclaration des biens. Ce n'est pas une déclaration des biens. Une définition précise a été apportée à cette loi et c'est une volonté vraiment bien ferme du gouvernement à lutter contre vraiment la corruption.
Il y a une autre question, c'est celle de la surfacturation qui fâche beaucoup. Et ça a suscité beaucoup de réactions politiques. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, d'abord, par rapport à cette situation, je pense que l'URPM a fait un communiqué de presse par rapport à la surfacturation, par rapport à tout ce que vous ne voulez pas nommer. Mais je sais que ici, le RPM est très ferme et très conscient. Il n'y a aucun cadre RPM impliqué dans cette situation. Et le président a été clair, il dit qu'il ne couvre personne. Il ne couvre personne, il n'est prêt à couvrir personne. Mm-hmm. Et les responsables seront châtiés à hauteur de crime.
Alors, honorable Diawara, vous croyez en cela?
Bon, je suis obligé vraiment de réagir par rapport aux propos de mon collègue. Mm-hmm. Affirmer que aucun cadre du RPM ne concerne pas ces dossiers, voudrait-il dire qu'ils connaissent tous les responsables? Si tel est le cas, je crois qu'il n'y aura aucune difficulté à sanctionner qui sont reconnus coupables. Je crois que c'est assez prématuré aujourd'hui, au stade des choses, de dire tel parti, membre de parti sont responsables ou pas. Moi, je crois que ce n'est pas un jugement responsable. Il faut aller au-delà de ça. Et les autorités doivent prendre toutes leurs responsabilités.
Ça veut dire que vous pensez que tout le monde doit être réprimé dans ce cas?
Non, moi je ne dis pas. Je ne connais pas les responsables. Il y a eu différents.
Je veux dire les responsables.
Ça c'est normal. Mm-hmm. En tout cas, les faits avérés dans les différents rapports. Nous sommes qu'au stade d'investigation, de présomption. En tout cas, la véracité des faits ne peut être qu'établie par la justice après instruction. Donc avant cela, moi je ne peux pas dire qui est responsable, qui n'est pas responsable. Mais dans les rapports, de par les fonctions tenues, il y a des responsables qui sont indiqués dans les différents rapports. Il appartiendra au gouvernement d'accélérer l'instruction par rapport à ces dossiers, autour duquel il y a assez de... D'accord. Je ne sais pas comment expliquer, mais au lieu d'épiloguer sous des rapports, c'est vrai ou c'est faux. Je crois qu'à un moment donné, chacun a eu le temps et le loisir de s'expliquer par rapport aux constatations. Il y a eu le contradictoire. Maintenant, après le dépôt de ce rapport, vouloir justifier, je crois qu'il faut le faire. Il fallait le faire au moment des investigations. Et comme le dossier, certainement, va dessiner à la justice, c'est à ce niveau aussi qu'il faut expliquer, justifier les faits. Sinon que les faits révélés dans ces différents rapports sont graphicismes. C'est quoi ça? C'est incontestable.
On est presque à la fin de l'émission, mais je vais vous poser cette question, honorable Sissoko. Et qu'est-ce que vous pensez de l'ultimatum du FMI par rapport aux poursuites judiciaires?
Bon, madame, moi, je n'ai officiellement, moi, je n'ai connaissance d'aucun ultimatum du FMI.
Il existe, hein?
Non, je ne dis pas, je dis officiellement. Officiellement. Je dis pour le crédit que j'apporte à votre institut, vraiment à votre radio.
On n'annonce pas comme ça, hein?
Non, je ne dis pas que vous annoncez comme ça. Mais vous ne pouvez pas me dire également des propos que je ne tiens pas de sources officielles.
Qu'est-ce que vous appelez source officielle? Il faut officielle, que vous soyez contacté par le RPM pour en parler
Non, pas, d'abord, le RPM, c'est un parti.
Oui.
C'est un parti dont le candidat a été élu président de la République. Le pays n'appartient pas au RPM. Et je vous rappelle également que le RPM n'est pas le seul à diriger le pays. Même l'opposition.
Ça, on l'a compris.
Même l'opposition est dans la sphère de l'administration.
Vous n'avez pas connaissance de l'ultimatum du FMI quand même?
Si. Officiellement, d'accord. Nous n'avons pas connaissance.
D'accord. Honorable Diawara, en deux mots, comme nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, bon, madame, je dirais que je ne parle pas d'ultimatum. Je pense que le Mali est en partenaire avec le FMI depuis plus de 30 ans. Le Mali, délibérément, s'est engagé dans un programme avec les instances de Bretton Woods. Ça veut dire que le Mali prend des engagements à assurer. Donc, à la suite du dépôt des rapports d'audit, le gouvernement et les FMI ont convenu sur des mesures à prendre.
D'accord.
Dont il y avait la publication, il y avait les sanctions, et ces sanctions doivent être notifiées si elles sont vérifiées et établies avant les la tenue du conseil d'administration.
D'accord. On est désolé, on est à la fin de l'émission. Ainsi s'achève ce numéro du Grand Dialogue du Parlement qui portait sur Ebola. De nouveaux cas à Bamako, les consultations du gouvernement sur le document de synthèse d'Alger et de la lutte contre la corruption. Nos invités étaient Seydou Diawara de l'URD et Bouakar Sissoko du RPM. Ce numéro vous a été présenté par Sira Bachili, réalisé par Ousmane Diadje Touré et mis en onde par Noum Diré et Gagné Kanté. Merci de nous avoir suivis. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.